Chaque année, des milliers de personnes fuient la guerre, la répression, les persécutions. Elles prennent la route de l'exil et affrontent de nouveaux périls dans l'espoir de trouver une terre d'asile. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour celles qui arrivent en Suisse ? Des vies en marge, un podcast du CSP Genève, 3 épisodes pour découvrir les réalités de l'asile en Suisse.
On a vu que tu as demandé l'asile ou tu as déposé ton demande d'asile en Croatie. Et on te dit que tu ne peux pas refuser parce que moi, je les ai expliqué. Moi, je n'ai pas demandé une demande d'asile. Je n'ai pas déposé une demande d'asile là-bas en Croatie. Mais ils m'ont dit non, 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 tu as déposé. On voit les empreintes, on voit dans la base de données, le DAC, on voit tout, on voit la date, on voit. Il y a ta photo, tu vois, tu vois.
Patrick a fui son pays d'Afrique subsaharienne en 2022. On l'appelle Patrick pour respecter son anonymat. Il a fui son pays et tout ce qu'il connaissait pour des raisons politiques. Il a pris la route des Balkans, il a traversé des frontières, marché de nuit, dormi dans des forêts. Il a survécu. Quand il arrive en Suisse, il pense pouvoir souffler et faire une demande d'asile. Mais il se retrouve confronté à la réalité du renvoi. Il comprend que son voyage n'est pas terminé. Bienvenue dans ce premier épisode, les accords de Dublin, un véritable verrou procédural.
La Suisse a expulsé un peu plus de 200 requérants d'asile vers la Croatie, c'était l'an dernier. Des retours inacceptables aux yeux de plusieurs ONG, car ces migrants vivent un cycle de violence à la frontière croate pendant leur renvoi de Suisse et à leur retour en Croatie.
Alors, l'usage et l'application du règlement de Dublin par la Suisse, il est assez impitoyable.
Marie-Claire Kunz est juriste au CSP depuis 20 ans. Experte des questions d'asile, elle nous explique les enjeux juridiques des accords de Dublin. Appliqué par 28 pays depuis 2008, ce système exige que le premier pays européen qui enregistre un demandeur d'asile traite son dossier.
Il y a peu d'exceptions et peu de cas où la Suisse renonce à appliquer ce règlement de Dublin, qui concrètement implique que la personne qui est venue jusqu'en Suisse demander l'asile soit renvoyée vers un autre État européen. Il y a des États européens où ça se passe très bien, il n'y a pas de discussion à avoir, la personne peut très bien déposer sa demande d'asile dans un autre pays européen, quand le cadre juridique le permet, quand les conditions sociales sont satisfaisantes, etc., l'accès à des soins médicaux.
En 2024, la Suisse a renvoyé 2491 personnes en vertu des accords de Dublin, 14% d'entre elles vers la Croatie.
Le problème, c'est qu'on a toute une série de pays où on sait qu'il y a des manquements graves dans l'accueil, dans l'accès à la procédure d'asile pour les demandeurs d'asile. Ou même, on a des récits, quand on parle de la Croatie, de personnes qui ont été maltraitées, torturées par la police croate, et auxquelles on dit, maintenant, ces mêmes autorités vont vous accueillir et vont trancher votre demande d'asile avec bienveillance et objectivité, ce qu'évidemment, les personnes ne peuvent pas croire. Je veux dire, quand on est rentré dans un pays et qu'on s'est fait tabasser, voire qu'on s'est fait violer, par des représentants de l'autorité, on ne va pas croire derrière que ces mêmes autorités vont traiter correctement notre demande d'asile. Donc on est face à des personnes qui ont déjà des traumatismes importants avant même d'accéder à un pays européen, puisqu'elles ont été souvent contraintes de fuir leur pays dans des situations de violence ou de menaces imminentes et graves à leur encontre, qui traversent un premier pays européen dans lequel elles vont vivre des nouveaux traitements inhumains, dégradants, actes de torture, et qui arrive en Suisse dans un état psychologique pitoyable.
Qu'est-il arrivé à Patrick lors de son passage en Croatie ?
Quand on voulait entrer par la Croatie, là, ça a commencé à être très difficile parce qu'il y a beaucoup de policiers aux frontières avec deux chiens, avec des armes. C'est comme si c'était où ils attendaient des robbers, je ne sais pas. Et quand je dis par rapport aux autres ou à moi, on a été refoulé plusieurs fois et enfermé dans des voitures qui sont comme des conteneurs fermés. Et puis, quand on t'attrape, ils te torturent, ils te battent. Ils t'ont été frais même avec les chiens. Ils utilisent même des armes et des balles arrière. Il y a, je pense, un groupe de policiers qui sont chargés à ça. Mais aussi, on devait s'asseoir dans la boue parce que si tu te relèves, ils te frappent pour que tu retournes en Bosnie. Nous, on a fui la guerre, on a fui des mauvais traitements, des tortures ou d'autres choses qui n'étaient pas du tout bonnes. Et puis, on arrive dans un pays européen, disant aussi qu'il respecte les droits de l'homme, et tu rencontres tous ces traitements. C'est vraiment inexplicable. On ne comprend pas pourquoi.
Selon la Suisse, la Croatie reste un État sûr.
Aucun indice de faiblesse systémique dans le système d'asile et d'accueil croate n'a pu être constaté à ce jour. Une suspension des transferts vers la Croatie n'est donc pas indiquée à l'heure actuelle.
On sait qu'en Croatie, et c'est vraiment très bien documenté par de nombreuses ONG, d'une part, il y a ces pratiques de pushback, d'essayer de renvoyer les gens qui rentrent en Croatie vers les autres pays, que ce soit la Serbie ou la Bosnie. Et ces pratiques de pushback, elles sont extrêmement violente.
Sophie Durieux est médecin adjointe, responsable de l'unité Santé, Asile et Réfugiés des HUG depuis plus de 30 ans.
On a des gens qui sont tabassés, à qui on enlève les chaussures ou simplement les lacets de chaussures. Allez enlever des lacets de basket et comment vous continuez à marcher. Des femmes qui subissent des violences sexuelles, des gens qui se font mordre par des chiens, etc. Donc il y a vraiment des pratiques extrêmement violentes de la part de gardes frontières d'un pays qui fait partie de l'Union européenne. Et ça, c'est extrêmement bien documenté. Et tout ça a évidemment un impact supplémentaire sur l'état de santé physique, d'une part, si on a été mordu par un chien ou une fracture, etc. Et évidemment, sur la santé mentale.
On ne comprend pas pourquoi la Suisse, qu'on pensait qu'il respectait les droits de l'homme, qu'il respectait tout ça, il ne prend pas même compte des témoignages ou des choses qui ont été dites ou des rapports médicaux. Alors, toi, on a reçu un message que demain, tu dois te rendre à l'OCPM pour te ramener en Croatie. À ce moment-là, j'ai presque perdu conscience parce que j'ai failli même tomber parce que j'ai eu des vertiges. Et là, j'ai même sorti à Paris Expo. Et puis, je pleurais beaucoup parce que je ne voyais pas quoi faire. Là, tous les souvenirs de la Croatie, ils sont revenus. Alors, je ne pouvais pas m'imaginer comment je pourrais retourner dans ce pays. Alors je pleurais, c'était vraiment très difficile.
Au cours de la procédure d'asile, très souvent, nous sommes sollicités directement par les autorités fédérales, et notamment le secrétariat d'État aux migrations, pour produire des rapports médicaux, pour faire état de l'état de santé des personnes. Pour la santé mentale, c'est beaucoup plus complexe, et du coup, on a l'impression que cette complexité, le secrétariat d'État aux migrations ou le tribunal administratif fédéral ne la comprend pas ou en tout cas ne la mesure pas. Et on peut arriver à des situations dramatiques. Mais la réponse du tribunal administratif fédéral, initialement celle du CEM, c'était de dire préparez-le, vous médecins. Et ce qu'on entend, nous, par un préparez-le, c'est bon, c'est un mauvais moment à passer, mais ça va aller, mon petit gars. Mais c'est pas ça la réalité. Quand on dit. On est certain qu'il y aura un risque suicidaire vraiment important en cas de renvoi et qu'on n'est pas entendu, c'est assez difficile à comprendre. Et alors même qu'on nous demande notre avis. Et puis le dernier point, peut-être, c'est de se dire que préparer quelqu'un à retour, c'est pas notre job, quoi. Nous, on voit l'impact de, quand on évoque un retour, un renvoi, etc. On voit dans nos consultations l'impact direct sur la personne en face à face. Nous, on n'a pas des dossiers, on traite des patients. Je pense que les autorités fédérales, que ce soit le tribunal administratif fédéral ou le secrétariat d'État aux migrations, ils ont affaire à un papier, un dossier papier. La personne, elle a été entendue 2 ans plus tôt. Et donc, c'est beaucoup plus facile, effectivement, de se positionner sur du papier que quand on a la personne en face. Je ne veux pas dire qu'on est influencé parce que la personne va pleurer, s'il vous plaît, docteur, faites en sorte que je ne sois pas renvoyé. Mais c'est des patients que nous suivons. Ce n'est pas une expertise ponctuelle. C'est des patients que nous suivons depuis des années et on voit l'impact que pourrait avoir un renvoi dans un pays d'origine ou un pays tiers sur cette personne parce qu'on connaît nos patients et on connaît leur histoire de vie. Et parfois, ils nous ont révélé des éléments qui n'ont pas pu être révélés au cours des auditions.
Je remercie Dieu que j'ai survécu. C'est comme ça que j'ai survécu au Dibre Croatie. C'était pas pour, parce qu'ils ont, ils avaient écouté ou étudié mon dossier, non. C'était seulement, c'était miracle.
Dans le cadre des accords de Dublin, une fois la décision définitive rendue, la Suisse dispose de 6 mois pour organiser le renvoi vers le pays désigné responsable. C'est ce qu'on appelle le délai de transfert. Passé ce délai, la Suisse devient responsable du traitement de la demande d'asile et le renvoi n'est plus possible. Dans le cas de Patrick, c'est l'autorité migratoire genevoise, l'OCPM, qui est chargée de mettre en œuvre cette expulsion vers la Croatie. Patrick a déposé une demande de réexamen. Elle a été rejetée. Pour Lisa Madson, ancienne conseillère aux États et présidente des Verts Suisses, la manière d'appliquer les accords de Dublin exprime un choix politique.
C'est typiquement sur la question des accords de Dublin, le fait qu'on déplace les gens à l'intérieur de l'Europe, on les sépare de leur famille, on ne prenne pas en compte leurs compétences linguistiques, par exemple, pour avoir une capacité à se développer rapidement dans un pays, ou qu'on les renvoie dans des pays où il n'y a pas d'accès aux soins, ou un accès, ou bien même des maltraitances. Alors, typiquement ça, on n'arrive quasiment pas à en discuter. Et je me demande des fois si des collègues savent exactement de quoi il en retourne. La seule question, c'est combien il y a de personnes, combien il y a de jeunes hommes afghans en ce moment qui traversent la frontière. C'est ça la discussion. Il y a une grande ignorance. Et cette ignorance, peut-être qu'elle est même entretenue, parce que c'est plus facile d'avoir des propos qui sont tellement grossier quand on ne connaît pas exactement la situation des personnes concernées. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que du coup, on a un système où on dépense beaucoup d'argent pour des choses qui sont inefficaces et qui ne sont pas profitables pour notre société. Et c'est là où je vois vraiment un raté de mon point de vue.
Aujourd'hui encore, la Suisse poursuit sa politique de renvoi vers la Croatie. Elle renvoie des hommes, des femmes, mais aussi des familles avec enfants, et même si les personnes sont gravement malades. Pourtant, dans les accords de Dublin, il existe une clause de souveraineté que tous les États membres peuvent activer. Chaque pays a le droit de décider d'entrer en matière sur une demande, même s'il n'est pas le premier pays d'accueil. Finalement, Patrick a pu échapper au renvoi, mais beaucoup n'ont pas cette chance. Nous lui avons demandé ce qu'il dirait aux responsables politiques s'ils se retrouvaient face à eux.
Je pense qu'ils ne connaissent pas exactement la réalité sur le terrain. Je pense qu'ils ne savent pas comment on vit tout ça. Parce que si c'était le cas, je dirais qu'ils ne prendraient pas des décisions qu'ils prennent. Alors, moi, je demanderais au moins d'écouter un peu de personnes qui ont vécu des violences en Croatie et d'écouter les témoignages, d'écouter tout ce qu'ils ont en dirait là-bas et puis prendre des décisions basées sur la réalité sur le terrain.
Grâce à l'intervention du CSP Genève, Patrick a pu entrer dans une procédure d'asile national. Retrouvez son témoignage dans le deuxième épisode de Des vies en marge, où il nous raconte le quotidien d'un requérant d'asile.